enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu. Donc, vous savez que la semaine passée, nous avons commencé une petite série sur le meilleur est à venir. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Le meilleur est à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein? Pour les gens qui disent, j'ai une chance que le meilleur est à venir parce que jusqu'à présent, ma vie était un peu pénible. Ma vie n'était pas trop rose. J'ai vécu beaucoup de problèmes, de peines, de la misère. Donc, waouh, quelle belle nouvelle de savoir que le meilleur est à venir. Peut-être vous dites, mais moi, ça va bien, ma vie, j'ai rien à, je peux pas me plaindre, j'ai été béni toute ma vie, bonne nouvelle pour vous aussi, le meilleur est encore à venir. Alléluia. Donc, dans le fond, le message est pour tout le monde. Regarde quelqu'un et dit, le message est pour toi. Amen. Donc, vous savez, nous parlons du meilleur à venir. Et on a pris comme quand même un texte clé. En fait, depuis le début de l'année 2008, janvier, le premier dimanche, on a lu et on a étudié, on a regardé un peu Jérémie chapitre 29. Et donc, si on peut revisiter Jérémie 29, 11, on va voir quelque chose que Dieu a dit et on voit son cœur envers son peuple et dans ce verset, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Regarde une autre personne, elle dit, Dieu a formé des projets sur vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix. Le mot paix en hébreu, c'est quoi? Shalom. Shalom veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Hey, vous êtes bons, hein? Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de shalom, projet, qu'est-ce que j'ai projeté, qu'est-ce que j'ai planifié, c'est que rien soit brisé dans votre vie et que rien manque dans votre vie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Projet de shalom ou de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, on parle de l'espérance. On a commencé cela la semaine passée et aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous avons tous besoin de l'espoir, n'est-ce pas? Et quand on regarde le sujet de l'espérance, c'est important de savoir c'est quoi. Et comme on a vu, juste pour faire une petite révision, je pense qu'on a un PowerPoint là-dessus, on sait que, premièrement, l'espérance n'est pas la foi. C'est différent que la foi. La foi, elle est importante. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la foi et l'espérance ne sont pas la même chose. Deux choses importantes. Mais si on regarde Hébreux chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, on voit que la foi et l'espérance vont de pair, mais les deux choses sont différentes. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que pour avoir la foi, il faut tout d'abord avoir de l'espérance. Et si on espère la bonne chose, on peut arriver à la place où on y croit. Et qu'est-ce qu'on voit? La différence vraiment entre l'espérance et la foi. L'espérance est future. Je sais que je vais avoir de quoi. Un jour, ça va arriver. J'espère que ça va être le cas. Tandis que la foi dit, c'est une manière de le posséder déjà en avance. Ce que j'ai espéré, je sais que je l'ai possédé, c'est à moi, je l'ai. Comme Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu déjà et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, vous voyez la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est futur. Un jour, j'ai quoi? Comme on voit l'autre définition sur le PowerPoint, c'est pas dans vos notes. L'espérance égale une attente joyeuse et confiante. Quand j'espère quelque chose, j'attends avec joie et avec confiance que cette chose va arriver. Et encore la clé, c'est que c'est encore dans le futur. J'ai une attente joyeuse. Tout le monde est joyeuse. Hein? Si vous êtes attristé, si vous êtes déprimé, si vous êtes dans la misère, vous n'avez pas la vraie espérance. Amen? Donc, et puis la troisième chose qu'on a vue, juste à titre de révision ce matin, c'est que l'espérance égale la vision d'un futur préféré. OK? Donc, l'espérance n'est pas la foi, parce que la foi est présente. Je l'ai déjà, je l'ai reçue. L'espérance, c'est que je vais la voir. Ça va arriver. On sait que l'espérance, c'est une joyeuse attente, c'est une attente joyeuse et confiante. Je sais et j'ai la joie qu'un jour, je vais expérimenter cela. Et comme on voit ici, c'est aussi une vision d'un futur préféré. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut construire une maison, avant que la maison soit construite, il peut recevoir le plan de l'architecte. Et il regarde le plan de l'architecte et puis il a de l'espérance. Quelqu'un qui a froid au Québec et il est gelé, il est tanné d'avoir tant de neige dans la cour. Et il regarde un pamphlet qui arrive par la poste avec une belle image de la plage et des palmiers et une vacance à moitié prix. Là, il commence à avoir de l'espérance. N'est-ce pas? Hein? Mais il n'a pas encore la foi d'y aller. Mais il commence à avoir l'espérance. Peut-être un jour, je vais pouvoir aller dans un pays chaud et je peux échapper cet hiver qui n'est pas éternel, mais qui semble être éternel des fois, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé au Québec, j'ai pas compris les personnes qui étaient tannées de la neige et tout. Je dis, hey, c'est beau la neige, j'aime ça, c'est merveilleux. Mais ça fait juste 14 ans et déjà je commence à comprendre. C'est quelque chose, hein? Donc l'espérance est une chose importante. Mais si quelqu'un veut aller plus loin que l'espérance et arriver à la foi, il va falloir qu'il agisse, il va falloir qu'il prenne le brochure, il va falloir qu'il compose le numéro ou aller sur l'Internet, il va falloir qu'il achète son billet d'avion ou de faire sa réservation à l'hôtel pour se rendre en auto en Floride ou peu importe. Il faut passer à l'action avant de prendre possession. Mais une fois que le billet est entre les mains, là, c'est notre histoire, n'est-ce pas? Donc, on sait que l'espérance, c'est la vision d'un futur préféré. Je préférerais être en Floride ou dans un pays chaud que dans la neige. Et j'ai une vision de cela. OK? Moi, je parle juste à titre d'information. Hein? Dans le fond, je suis bien content d'être ici au Québec. Et j'ai aucune intention de partir dans un pays chaud. Hein? Juste au cas où quelqu'un dit, « Oh non, le pasteur, il va déménager. » Non, Dieu m'a l'air. Là. Mais vous savez que quand on regarde ce sujet de l'espérance, de cette vision d'un futur préféré, je m'excuse pour le bruit du micro, on va procurer un nouveau micro un jour, mais j'ai l'espérance, j'ai une vision d'un futur préféré, un micro casque qui est sans fil, qui grise plus, j'ai cette espérance, amen. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire, c'est que je pense que je vais mettre le micro dans ma poche, des fois ça griche moins.
C'est correct?
Voilà. On va essayer. On espère. Donc on parle aujourd'hui encore de l'espérance, mais il y a quelque chose de plus spécifique que je voulais regarder et que je voulais adresser parce que on a tous vécu cela, je crois. Les moments où on a eu une vision d'un futur préféré. Un moment où quelqu'un qui est malade, tout d'un coup, il a la vision d'être en santé. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, tout d'un coup, il a de l'espérance que ça va aller mieux. Ou quelqu'un qui a des problèmes dans le couple ou dans la vie conjugale, il a l'espérance que ça va changer. On a tous vécu ces moments d'espoir, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a personne ici qui n'a jamais, au moins une seule fois dans la vie, vécu un moment d'espoir. Tandis que, il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de gens qui ont aussi vécu qu'est-ce qui arrive à l'occasion. Ça, c'est les moments de déception. Où on a espéré et tout d'un coup, il nous semble que notre espoir est disparu. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Les moments où on a espéré, et puis avec le temps, ça devient long, ça devient lourd, et on se décourage. Et on perd de l'espoir. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Hein? Et aujourd'hui, on veut parler de comment vaincre le découragement et comment vaincre la déception. Et je trouve que c'est un message extrêmement important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui se laissent décourager inutilement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu les déceptions et ils se laissent vraiment décourager par ces déceptions. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais vous redonner l'espoir. Amen. Mais regardons, il y a un verset en Proverbe, chapitre 13, verset 12. Et c'est vraiment le verset clé que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le message aujourd'hui. C'est un verset qu'on peut tous comprendre. On peut tous compatir, je crois. Proverbe 13, 12 dit ceci. Un espoir différé rend le cœur malade. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est de vivre un espoir différé ou quelque chose qui est retardé, mais un désir accompli est un arbre de vie? J'aime beaucoup le français courant qui dit l'espoir qui tarde à se réaliser chagrine le cœur, mais le désir comblé est comme un arbre de vie. Avez-vous déjà vécu cela? Hein, l'espoir qui est retardé dans sa réalisation. Oh, j'ai espéré pouvoir prendre cette vacance, mais là, ça fait des années, je ne l'ai toujours pas fait. Ou autre chose de ce genre. Mais aujourd'hui, on veut voir comment vaincre ces déceptions. Comment vaincre le découragement qui peut venir. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez découragé. Dieu veut que vous ayez toujours de l'espérance. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais regardez, il y a un couple de choses avant d'aller vraiment dans la viande du message. Il y a quand même deux choses que je veux souligner. Première chose, c'est que les fausses espérances peuvent nous tromper. Il faut avouer qu'il y a des occasions dans la vie où on espère, mais on n'espère pas dans la bonne chose. Et quand on a une fausse espérance, est-ce qu'on dit une fausse espérance ou un faux espoir? Mais en tout cas, on peut espérer à quelque chose et dans le fond, on n'espère pas dans la bonne chose. Il y a un verset qui parle de ça en Jérémie, chapitre 7, verset 8. Et c'est Dieu qui parle à son peuple. Et si vous connaissez le contexte de ce verset en Jérémie, c'est Dieu qui parle à son peuple à travers le prophète. Mais son peuple est dans la rébellion. Son peuple est révolté, rebelle, courraide, si vous voulez. Et Jérémie dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances, quoi? Trompeuses. Qui ne servent à rien. Combien de fois est-ce que nous nous sommes livrés à des espérances trompeuses? Et c'est ça, dans le contexte ici, qu'est-ce qui se passait, c'est que le peuple de Dieu faisait toutes sortes de bêtises. Ils offraient des sacrifices, même humains. Ils faisaient des choses concernant l'idolâtrie, affreux, les abominations aux yeux de Dieu. Ils révoltaient contre la parole de Dieu. Ils étaient carrément dans le péché, dans la rébellion. Mais il y avait des prophètes autour d'eux qui prophétisaient le bien. Juste pour mettre ça simple, « Oh, tu vas bien, nous sommes ici à la place que Dieu a choisi, donc tu vas bien aller, c'est parfait. » Donc, les prophètes qui n'étaient pas inspirés de Dieu, qui parlaient de leur propre gré, donnaient une fausse espoir au peuple de Dieu. Ils donnaient l'impression que ça va bien aller, mais ça n'allait pas bien aller. Ils étaient dans la rébellion, ils faisaient des choses atroces et Dieu voulait que le peuple se répande et l'espérance se trouvait dans leur repentance, pas dans les paroles vides. Amen. Et souvent, je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de cela, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se livrer aux espérances trompeuses. Parce qu'il y en a. Le monde est rempli des espérances trompeuses. Le monde fait toutes sortes de promesses, n'est-ce pas? Oh, fais ceci, appelle ce numéro, tu n'auras plus besoin de travailler. tu vas être millionnaire dans 6 semaines ou quelque chose de ce genre, hein? Et les gens, ils font, oh, ils commencent à avoir de l'espoir. Oh, wow, je vais être millionnaire. Et ils font toutes sortes de bêtises. Ils abandonnent leur travail et tout cela pour se donner à un faux espoir. Amen? Donc, le monde est plein de cela. Il y a des fois des hommes politiques qui font des promesses. Et donc, OK, on va mettre cet homme à la place de l'autorité. Donc, on espère que ça va bien aller. Mais des fois, nos espérances sont trompeuses, n'est-ce pas? Donc, c'est dangereux. Il faut pas se livrer à des espérances trompeuses. Mais on va voir l'équilibre dans quelques minutes. Mais la deuxième chose que je voulais souligner avant encore d'entrer dans vraiment la viande du message, c'est que la véritable espérance ne trompe jamais. On peut avoir une fausse espérance ou on peut avoir une véritable espérance et la véritable espérance ne trompe jamais. Regardons ce verset de la parole de Dieu, ou regardons dans votre Bible, ou dans vos notes, ou sur le PowerPoint, l'un ou l'autre. Romains 5, verset 1, dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit quoi? Dis ça plus fort, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que voici qu'est-ce qui se passe dans le monde et dans l'Église même, souvent. Les gens ont eu l'expérience de se livrer à une fausse espérance. N'est-ce pas? Et parce qu'ils se sont livrés à une fausse espérance, qu'est-ce qui arrive? Ils sont déçus. Parce qu'ils sont déçus, ils tombent dans le découragement. Parce qu'ils sont découragés, ils tombent dans une dépression. Et là, ils tombent dans un pattern de pensée et d'agir qui est malsain. Et la prochaine fois que une véritable image ou vision d'un futur préféré vient de Dieu, au lieu d'y croire, au lieu de se livrer à l'espérance que Dieu nous donne, au lieu de croire que les projets que formés sur nous sont des bons projets, ce sont des projets de paix, ce sont des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance, au lieu d'y croire, on n'ose plus espérer à rien. Est-ce que vous savez de quoi je parle? J'ai déjà essayé d'aimer dans le passé, ça n'a pas fonctionné, j'étais déçu, j'étais blessé, je ne vais jamais plus aimer. On rit, mais combien de personnes sont dans cet état dans le monde aujourd'hui? Hein? Ils ont été déçus par les hommes, donc ils font plus confiance aux hommes. Ils ont été déçus par les femmes, ils font plus confiance aux femmes, etc. Donc, il y a tellement de personnes qui sont tombées dans le pattern de déception, découragement, dépression. Ça paralyse la personne pour le restant de leur vie. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit capable de vaincre le découragement, de vaincre la déception et d'arriver à la place où on espère de nouveau. En sachant que la véritable espérance ne trompe pas. Combien de fois j'ai entendu les personnes dire, mais j'ose pas espérer que je peux recevoir la guérison parce que je ne pense pas que je peux supporter la douleur d'être déçu encore une fois. J'ose pas espérer que Dieu peut vraiment exaucer ma prière. Donc, j'ose pas y croire ou espérer même parce que je peux pas imaginer la blessure que je vais subir si ça arrive pas. Donc, il y a des personnes qui vivent leur vie en neutre, on dirait. C'est comme ils n'avancent pas. Ils sont là, sur la planète Terre, en train d'exister sans espérance. Mais la véritable espérance de Dieu ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'on peut espérer? Parce que Dieu nous aime. Son amour est merveilleux. Son amour dépasse notre capacité de comprendre même. Alléluia. Donc, regardons, on va voir. En Hébreux, chapitre 6, verset 11. Et ça, c'est une faute de frappe. C'est pas jusqu'à 120, parce que ça n'existe pas. Si vous avez Hébreux 6, 120, déchirez ça de votre Bible, parce que c'est pas supposé d'être là. Mais Hébreux, chapitre 6. Et si on peut regarder ici, dans ce passage, on va voir de verset 11 jusqu'à verset 20. On va voir les instructions qui sont assez claires et précises. Comment vaincre le découragement ou comment éviter ou vaincre la déception. Ça vous intéresse? Donc ici, voici la parole de Dieu qui dit en verset 11, « Nous désirons que chacun de vous... » Donc le message n'est pas pour votre voisin, c'est pas vous. Tout le monde dit, c'est pas moi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver pour quelques jours, pendant un peu de temps, c'est ça qui est marqué? Non, jusqu'à la fin, une quoi? Une pleine espérance. Donc on voit ici que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons zélés et qu'on soit capable de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Savez-vous quoi? Juste là, on peut arrêter et on peut parler et prêcher sur ce verset pendant une heure de temps. Dieu veut qu'on soit zélé jusqu'à la fin et qu'on conserve une pleine espérance jusqu'à la fin. Et pour faire cela, il veut qu'on soit capable d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. Savez-vous que la Bible est pleine des hommes et des femmes qui ont dû persévérer avant de recevoir ce que Dieu a promis? On pense à Abraham, on pense à Sarah, Dieu a donné une promesse à ces deux personnes. Dieu a promis qu'ils allaient avoir un enfant. N'est-ce pas? Mais savez-vous combien d'années ça a pris? Ça a pris, c'est pas clair, mais c'est entre 20 et 25 ans avant que la promesse fût accomplie, avant que le bébé est venu au monde. Et c'était quelque chose parce qu'à l'époque, Abraham avait autour de 100 ans, Sarah avait plus de 80 ans, donc c'était un miracle, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait cette promesse à eux et ils étaient capables d'espérer, la Bible dit, contre l'espérance. L'espérance naturelle disait, non, tu as dépassé l'âge pour avoir un bébé, ça ne marche plus. Mais la parole de Dieu a dit, tu vas avoir un bébé, donc contre l'espérance, ils ont espéré. Et des fois, ça va arriver dans nos vies aussi. Dieu va nous montrer des choses qu'il a promis et toutes les circonstances vont dire le contraire. Tout ce que nous voyons avec les yeux, tout ce que nous entendons avec les oreilles, tout ce que nous observons chez les autres va dire « Impossible, arrêtez d'espérer, vous allez être déçus, vous allez être découragés. » Et on va avoir la tentation de relâcher. Mais la Bible dit ici que Dieu ne veut pas qu'on relâche, mais il veut qu'on soit des imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc, pour faire cela, il y a quatre choses que vous et moi, nous avons besoin de faire. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quelles sont les quatre choses? Voici la première chose. Clé numéro un, si vous voulez, éviter le découragement. Éviter la déception. Moi, je suis de l'avis que il vaut mieux prévenir que guérir. Vous êtes d'accord? Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, numéro un, espérez seulement en ce que Dieu a promis. Espérez seulement, uniquement, mettez votre confiance, votre espérance seulement et uniquement dans les promesses de Dieu. Espérez pas dans les hommes. Espérez pas. Mettez pas votre confiance dans les êtres humains, dans le sens. Et faisons attention. Moi, j'ai confiance dans mon épouse. Mais je suis aussi conscient qu'elle est humaine, n'est-ce pas? Et qu'elle peut, une fois par année, faire une erreur. Ou une fois chaque 10 ans, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais je suis conscient que je ne suis pas en train de dire, parce que l'amour l'avait dit, l'amour croit tout. L'amour croit toujours le meilleur. Et je crois que nous devrions arriver à la place dans nos relations, dans nos couples et dans l'Église, où on est capable de faire confiance aux autres jusqu'à un certain point. Mais je ne vais pas mettre toute ma confiance dans un autre être humain. Vous êtes d'accord? Parce que les êtres humains peuvent me décevoir. Mais Jésus ne va jamais me décevoir. Donc, espérez seulement ce que Dieu a promis. On voit cela dans le passage de Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la, quoi? Promesse à Abraham. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, souligne ce mot, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi que Abraham, ayant quoi? Persévéré, obtint l'effet de la promesse. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que si Abraham n'aurait pas persévéré, il n'aurait jamais obtenu l'effet de qu'est-ce que Dieu a promis. Combien de nous, ici ce matin, si nous sommes honnêtes, il y a des choses que Dieu nous a promis, mais nous n'avons jamais obtenu l'effet de sa promesse. Vous savez que Dieu a promis, juste un exemple, que tous ceux qui croient en Jésus peuvent passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un peut entendre cela, mais si quelqu'un n'y croit pas, il ne va pas recevoir ou obtenir l'effet de la promesse, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Il y a certaines promesses qu'on obtient rapidement. Il y a d'autres promesses où ça prend du temps, ça prend de la persévérance. Mais cette persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Alléluia. Et cette victoire nous donne l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Mais, encore, point numéro un, espérez seulement ce que Dieu a promis. Vous n'avez pas d'affaire à espérer dans les choses que vous ne pouvez pas trouver dans la parole de Dieu. Sinon, c'est juste, c'est un souhait. Souhaiter, c'est une chose. Espérer, c'est une autre chose. Moi, je souhaiterais avoir telle affaire. Oui, mais ça, c'est autre chose que d'espérer, parce que Dieu a promis une affaire. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? On regarde quelques versets qui soutiennent cela. Psaume 119. Soutiens-moi selon ta... quoi? Promesse, afin que je vive et ne me rends pas confus dans mon espérance. Soutiens-moi. C'est le psalmiste qui parle à Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse. Tu l'as promis, je ne serai pas confondu. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas découragé. Encore, Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Souligne la phrase, selon ce qui lui avait été dit. Si Dieu ne l'a pas dit, vous ne devriez pas l'espérer. Amen? Alors, déjà, on a 99% du problème réglé. Parce que si je ne l'espère que dans les choses que Dieu a promis, Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu garde toujours ses promesses, n'est-ce pas? Je ne serai jamais déçu. Je ne serai jamais confondu. Je ne serai jamais découragé parce que Dieu va toujours accomplir ce qu'il a promis. En fait, ça va de pair avec la deuxième chose qu'on a besoin de faire pour vaincre le découragement et la déception. Deuxième chose, soyez encouragés. N'est-ce pas bon d'être encouragé? Soyez encouragés comment? Par le fait que Dieu ne peut pas mentir. Ça, c'est très encourageant, n'est-ce pas? Les hommes peuvent mentir. Mais Dieu ne peut pas mentir. C'est pas parce que Dieu a choisi de ne pas mentir, il est comme impossible pour Dieu de mentir. C'est pas dans sa nature. Dieu n'a pas la capacité de mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est très encourageant. C'est-à-dire que si Dieu l'a dit, j'y crois. Il faut que j'y croie, parce qu'il ne peut pas mentir. Regardons notre texte, encore verset 16. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie, okay? Qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité, c'est-à-dire que ça ne peut pas être changé, l'immutabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Donc, je veux que vous compreniez, Dieu a promis quelque chose, et juste au cas où que vous n'êtes pas convaincu que la promesse est suffisante, il a pris une décision de jurer et de donner un serment. Vous savez, c'est quoi d'avoir une déclaration sermentée, n'est-ce pas? Je jure, c'est vrai. Et laisse-moi vous dire, parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que Dieu, Dieu avait besoin de jurer par lui-même. Il a mis toute sa réputation sur la ligne, n'est-ce pas? Et il a juré par lui-même, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervint par un serment afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire deux choses qui ne peuvent jamais être changées, dans lesquelles il est quoi? Impossible que Dieu mente. Regarde quelqu'un et dit, il est impossible que Dieu mente. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions quoi? Un puissant encouragement. Ça, c'est bon! Des fois, j'ai besoin d'être encouragé. Et des fois, j'ai besoin d'être puissamment encouragé. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir besoin d'un puissant encouragement? Parce que vous avez vécu une puissante déception? Quand nous vivons des puissantes déceptions, ou quand nous avons les choses devant nous qui semblent impossibles, c'est là où on a besoin d'un puissant encouragement. Mais c'est quoi la source de ce puissant encouragement? La source, c'est de savoir qu'il est impossible que Dieu mente. Et Dieu a fait une promesse et il a assermenti. Promesse assermentie. Je jure, je promets et je jure que je vais faire qu'est-ce que je viens de dire. N'est-ce pas bon? Alléluia! Donc regardons, il dit... Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir quoi? L'espérance qui nous a été proposée. Vous savez que cette promesse, le serment que Dieu fait, nous donne une vision d'un futur préféré. Dieu a dit, hein, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et tout d'un coup, je commence à voir une image d'un futur préféré. Au lieu d'être malade, je peux être en santé. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ah, tout d'un coup, j'ai une image d'un futur préféré. Au lieu d'être cassé, je peux être béni. Amen. Donc, on voit toutes les promesses, toutes les choses que Dieu a dit. Hein? Toutes les promesses que Dieu a fait concernant le ciel, le paradis. C'est tout juré, promis, scellé par le sang de Jésus même. Et comme on voit ici, que nous, dont le seul refuge, vous savez, on n'avait pas vraiment d'autre choix. Le seul refuge qu'on avait vraiment, qui était sécuritaire, c'était de faire quoi? C'était de saisir cette vision d'un futur préféré. Sinon, je suis fait. Sinon, je suis désespéré. Sinon, je suis vraiment dans le trouble. Parce que sans Jésus, je peux rien faire. Vous êtes d'accord? Donc, soyez encouragés par le fait que Dieu ne peut pas mentir. Numéro 3, voici quelque chose de super important. On parle toujours de comment vaincre le découragement et comment vaincre la déception. Troisième chose, ancrez votre âme dans la vision que Dieu propose pour votre futur. On vient de lire la fin du verset 18, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » N'est-ce pas bon que Dieu nous propose toujours une vision d'un futur préféré? Pour tous les domaines de notre vie, il y a toujours quelque chose de mieux. Le meilleur est toujours à venir avec Dieu. Les projets qu'il a formés sur nous, les projets de shalom, de paix, où rien n'est brisé et rien manque dans notre vie, il est toujours là et Dieu est toujours en train de nous proposer cette vision, cette espérance. Mais c'est à nous de saisir cette espérance. Si vous ne la saisissez pas, vous allez passer à côté. Et vous n'allez jamais vivre toutes les choses que Dieu veut que vous viviez. Mais ici, on voit quelque chose. Ancrez votre âme dans la vision que Dieu propose pour votre futur. Et le verset 19 dit, cette espérance, cette vision d'un futur préféré, cette attente joyeuse et confiante que vous avez de quelque chose de mieux, cette espérance, nous la possédons comme, en quoi? Comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Le mot âme ici, c'est quelque chose de super important. Il faut que vous sachiez que vous êtes un être sur trois dimensions. Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5:23 le dit clairement. Que le Seigneur vous préserve, hein, que votre être entier, esprit, âme et corps. Votre être entier, esprit, âme et corps. Tout le monde dit esprit, âme et corps. Ici, nous voyons que l'espérance, c'est une ancre pour quoi? Pour l'âme. Ça est important, parce que c'est souvent dans l'âme où on perd la bataille, où on gagne la bataille. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes enfant de Dieu, votre esprit est déjà né de nouveau, la Bible dit. Vous êtes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'esprit de Dieu rend témoignage avec votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Dans votre esprit, vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle et que vous avez un futur merveilleux devant vous. Dans votre cœur, vous le savez. Le problème arrive entre les oreilles. Le problème arrive quand on commence à voir les effets de ce monde. On commence à entendre les commentaires de nos circonstances, de nos amis ou nos ennemis. Le problème arrive quand qu'est-ce que nous savons dans notre cœur semble pas être en accord avec ce que nous voyons avec les yeux. Et quand cela arrive et nous ne voyons pas, comme Abraham et Sarah, ils ont cru que Dieu allait leur donner un enfant, mais qu'est-ce qu'ils voyaient avec les yeux ne correspondait pas avec ce que Dieu a dit pendant 25 ans. Mais ils avaient besoin de persévérer, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est dans l'âme. Et qu'est-ce qui arrive dans l'âme? Et l'âme, c'est quoi? C'est votre volonté, c'est votre intelligence, et c'est aussi le siège de vos émotions. Et c'est une bonne chose. L'âme et l'esprit sont tellement proches. La Bible dit que ce n'est que la parole de Dieu qui peut trancher et séparer l'âme avec l'esprit. Ils sont tellement proches, mais c'est quand même différent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'espérance, c'est l'ancre pour votre âme. C'est-à-dire, c'est l'ancre pour votre volonté, c'est l'ancre pour votre intelligence et c'est l'ancre pour vos émotions. Que fait une ancre? Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi une ancre? Ça tienne quelque chose en place. Si on pense à un navire qui est dans l'océan et ils ne veulent pas que le navire bouge, il faut que le navire reste dans le havre parce qu'il y a une tempête qui s'en vient et il ne faut pas que le navire soit emporté par les vagues et par la tempête. Et il faut faire quoi? Il faut faire descendre l'ancre. Et une fois que l'ancre est descendue, le navire ne bouge plus. Même si la tempête arrive, on est dans l'arbre de paix. Amen. C'est ça que Dieu veut. L'espérance, cette vision d'un futur préféré, c'est ce qui va ancrer votre âme et faire en sorte que votre âme reste à la bonne place. C'est-à-dire que vous allez toujours prendre les bonnes décisions avec votre volonté. Vous n'allez pas décider un jour de faire la volonté de Dieu et le lendemain faire autre chose. Non, parce que vous avez une vision. Et cette vision vous tient en place. Vous prenez toujours la bonne décision. Votre volonté est ancrée en Dieu. Votre intelligence ne sera plus emportée par les vagues, par la tempête de la vie, par les circonstances et les symptômes ou quoi que ce soit. Parce que quand les choses arrivent, votre espérance, cette vision de votre futur, garde votre intelligence et vos pensées ancrées à la bonne place. Je pense toujours la bonne chose. Je pense toujours en ligne avec la parole de Dieu parce que je garde toujours devant moi cette espérance, cette vision d'un futur préféré. Je suis ancré. Et c'est quoi la troisième partie de votre âme? C'est les émotions, n'est-ce pas? Et c'est là où on a souvent le problème. Vous avez vu mes émotions tantôt, je pleurais. C'est correct. Les émotions ne sont pas méchantes. Les émotions sont bonnes, mais on ne peut pas se fier à nos émotions. Si on vit selon nos émotions, wow, on est dans le trouble et notre famille est dans le trouble et tout notre entourage est dans le trouble, n'est-ce pas? Les gens ne savent pas, est-ce que je peux lui parler aujourd'hui ou non? Je ne sais pas, est-ce qu'il est de bonne humeur ou pas de bonne humeur? Je ne sais pas, j'ose pas lui dire un mot. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Est-ce que vous êtes une personne comme ça? Levez pas la main. Mais c'est l'espérance qui est l'encre de votre âme, de vos émotions. Et au lieu d'être tout triste à chaque fois que vous voyez quelque chose qui ne correspond pas avec cette vision, et puis quand vous avez quelque chose qui va bien dans le naturel, « Oh, je suis heureux aujourd'hui, mais ça va moins bien le lendemain, non, je suis triste aujourd'hui. » Vous êtes ballotté, emporté par les vagues. Oh, aujourd'hui je suis triste. Oh, aujourd'hui je suis heureux. Oh, aujourd'hui je suis fâché. Oh, aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que je suis. C'est votre espérance qui va ancrer vos émotions. C'est vrai, c'est ça. Alléluia. Donc, ancrez votre âme dans la vision que Dieu propose pour votre futur. Puis numéro 4, on va terminer avec ceci. Ne perdez jamais de vue la puissance de votre position dans la présence de Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si vous voulez vraiment espérer et garder l'espoir et persévérer afin d'obtenir les promesses de Dieu, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut jamais perdre de vue la puissance de votre position en Jésus-Christ, dans la présence de Christ. Je dis cela parce qu'on vient de lire verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est quoi qui pénètre au-delà du voile? Cette espérance. Cette vision que Dieu m'a donnée d'un futur préféré va au-delà du voile. On parle de quoi quand on parle d'une voile? On parle spécifiquement, n'oublions pas que ce verset se trouve dans l'épître aux Hébreux. Vous savez c'est quoi un Hébreu? C'est un Juif, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui connaissait les traditions juives et qui connaissait aussi le temple. Juif. Il savait qu'est-ce que cela signifiait le voile, parce que dans le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait trois sections. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, et ensuite, à l'intérieur du lieu saint, il y avait une voile, et en arrière du voile, il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, une fois par année, le souverain sacrificateur avait le droit d'aller en arrière du voile et la gloire, la présence Shekinah de Dieu descendait et remplissait le temple et le sacrificateur avait le droit, juste une fois par année, d'expérimenter la présence manifestée de Dieu comme ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on sait? Combien de vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec le voile du temple quand Jésus fut crucifié? c'était déchiré d'en haut jusqu'en bas pour signifier que c'est plus juste une personne qui peut y aller. En fait, la Bible dit que le grand souverain sacrificateur, Jésus, est entré une fois pour toutes, et on le voit dans le verset ici, qu'elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. C'est quoi un précurseur? C'est quelqu'un qui va courir avant nous, n'est-ce pas? Qui va arriver dans un endroit avant que les autres arrivent. Donc, Jésus est le premier arrivé, mais il n'est pas le dernier arrivé. Parce que maintenant, Jésus a amené tous ceux et celles qui ont cru en lui, ils l'ont amené avec lui, en arrière du voile, dans la présence même de Dieu. Et voici la beauté de la vie chrétienne, c'est que j'ai plus besoin d'un intermédiaire entre moi et Dieu. Je suis en Jésus-Christ, et en Jésus, je peux être en arrière du voile, dans le lieu très saint. J'ai accès à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Toute beauté, n'est-ce pas? Mais regardons ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Éphésiens chapitre 2, verset 5 dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes où? En Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en arrière du voile, dans la présence glorieuse du Père, où est-ce que nous sommes, spirituellement parlant? Nous sommes en arrière du voile, en Jésus-Christ, avec lui. Et savez-vous que la perspective que nous pouvons avoir, vous savez que la vue d'en haut est très belle. Si vous voulez avoir une belle vue et vous voulez voir loin, 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 qu'est-ce qu'il faut faire d'habitude? Il faut monter, n'est-ce pas? On monte. C'est pourquoi il y a des tours d'observation partout, n'est-ce pas? On voit en Ontario, à Mille-Îles, il y a des tours d'observation. Il y a des places où les gens peuvent payer même pour monter en haut, pour pouvoir voir le Saint-Laurent et les îles et tout. Pourquoi? Parce que la vue est différente d'en haut, n'est-ce pas? Savez-vous quoi? Si vous voulez garder la vision de votre futur préféré, il ne faut jamais perdre de vue la puissance de votre position en Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Voyez pas vos problèmes, vos circonstances, dans perspective terrestre. Voyez vos problèmes et vos circonstances dans perspective éternelle. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile de garder espoir et de ne pas se laisser décourager. On dit, oh, mais c'est... Ça fait déjà 25 ans. Puis, savez-vous qu'avec le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour? De la perspective du ciel, c'est pas grave. Si vous lâchez pas, vous allez gagner. Gardez la bonne perspective. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Amen.
Alléluia. Merci, Père Céleste. Hébreux 4, 15, pardon. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, dans les lieux très saints. Mais verset 16 dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On parle de comment vaincre le découragement, comment vaincre la déception. Laisse-moi vous dire, il est impossible d'être déprimé ou déçu quand nous sommes conscients de qui nous sommes en Christ et où nous sommes en Jésus-Christ. Bon, ça, c'était faible. J'avoue, hein? 4 personnes ont dit « Amen ». Mais peut-être vous êtes juste en train de réfléchir, mais pensez ça. Dieu veut vous donner une vision d'un futur préféré. Et il faut saisir cette vision. Et il faut que cette vision devienne l'encre de votre âme. Mais ne perdez jamais de vue le fait que cette vision est de plus en plus claire, plus nous sommes conscients de notre position en Jésus-Christ, en haut, dans les lieux célestes, avec lui. Nous aussi donc, on va terminer avec ceci, Hébreux 12 ans. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec quoi? persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur nos problèmes. Oh, c'est pas marqué ça? Oh, j'ai pas lu comme faut. Ayant les regards sur les circonstances. C'est pas ça non plus? Non, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et n'oubliez pas que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. L'auteur, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a su faire la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez point, quoi? L'âme découragée. Alléluia. Je vous dis, on peut éviter 99% de nos problèmes en faisant numéro 1, ce qui était espéré seulement en ce que Dieu a promis. Puis, on peut être fortement, puissamment encouragé par le fait que Dieu ne peut pas mentir. On peut ancrer notre âme, notre volonté, notre intelligence, nos pensées et nos émotions dans cette vision d'un futur préféré que Dieu nous propose. Et si on ne perd jamais de vue le fait que nous sommes en Jésus-Christ, assis avec lui et en lui dans les lieux célestes, laisse-moi vous dire, on va être capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sans avoir une âme découragée, nous allons saisir le prix, remporter la victoire, et nous allons pouvoir expérimenter ces projets de shalom que Dieu a projetés, qu'il a formés sur nous avant la fondation du monde. Amen. Donc, on va se lever debout, on va prier. Alléluia. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Merci pour la vision d'un futur préféré. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ton Esprit Saint. Nous te remercions, Seigneur, que tu es à l'œuvre aujourd'hui, dans cette Église et dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions que tu ne nous as pas laissés ici comme des orphelins, mais tu nous as donné, Seigneur, le Consolateur, le Saint-Esprit, et c'est lui qui révèle à notre cœur cette vision. C'est lui qui nous donne l'image d'un futur qui est mieux que qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette espérance qui est l'encre de notre âme. Père, au nom de Jésus. Juste avec tous les cœurs très sensibles à qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui. Je sais que le Seigneur est là, parce que la Bible est claire, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et moi, je ne veux pas quitter la salle aujourd'hui sans avoir donné l'occasion à chaque homme, chaque femme, chaque ado, chaque enfant qui est présent, de recevoir et de saisir l'espérance de la vie éternelle. Vous savez que Jésus a promis que tous ceux et celles qui croient en lui peuvent passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est pas une chose que vous pouvez mériter, mais Jésus est clair là-dessus. Il a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Donc ce matin, je vous pose la question. Est-ce que vous savez, sans aucune doute, que vous avez saisi cette espérance? Est-ce que vous croyez de tout votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour vos péchés, qu'il était enterré et trois jours après ressuscité? Et la question primordiale, est-ce que vous savez, sans aucune doute, que vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur personnel? Si en quittant l'Église aujourd'hui, votre cœur arrête de battre, est-ce que vous savez sans aucune doute que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Si vous n'avez pas cette espérance, ou si vous n'avez pas cette assurance, aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de donner votre cœur à Jésus. Donc, c'est pas compliqué. Je vous invite pas à devenir membre de cette église locale. C'est pas l'église locale qui peut vous sauver. C'est Jésus qui sauve. Amen. Mais je vous invite à venir et de faire partie de la famille de Dieu aujourd'hui. Donc, pensez à cela. Peut-être vous dites, mais moi, je suis croyante, ou je suis croyant, ou je crois en Jésus depuis toute ma vie. Mais vous savez que la Bible dit que même le diable, il croit. que Dieu existe, mais lui n'est pas sauvé, vous êtes d'accord? C'est pas assez de croire. C'est pas assez juste d'avoir dans la tête la conviction, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous donniez votre cœur à lui. Il veut que votre vie soit transformée par sa présence et par son amour. En fait, Jésus a dit, allez dans tout le monde et prêche la bonne nouvelle à chaque création, à chaque créature. Celui qui croit et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Donc, on voit qu'il est important de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés. Mais il faut aussi être prêt. Le baptême ne nous sauve pas, mais il faut être prêt à suivre Jésus. Et peu importe qu'est-ce qu'il nous demande à faire. S'il nous demande d'être baptisé, on va dire oui, Seigneur, on se fait baptiser. S'il nous demande à faire autre chose, peu importe, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu vas être mon maître, tu vas être mon sauveur et mon Seigneur. C'est ça que Jésus veut. Donc, je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, pasteur, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir fait cela. Bonne nouvelle. Je peux prier avec toi. Nous pouvons prier ensemble. Et vous pouvez sortir d'ici avec une assurance. Sachant à 100% que vous êtes enfant de Dieu. Que vous avez reçu la vie éternelle. Et vous pouvez espérer avoir une demeure éternelle au ciel. Marcher sur les rues d'or. Et avant ça même d'avoir la paix, la joie, le bonheur ici sur la terre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Je vais juste compter à trois, taper ma main et je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus, qui veut que je prie avec lui? Un, deux, trois, levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Super. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Je vais juste vous inviter à venir et on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir avec ces personnes? Ne sois pas gêné. Jésus a dit que si tu confesses, Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Et là, elle n'a pas honte de dire, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, n'est-ce pas? Non, mais... Marlène, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à Marlène ce matin? Juste venez, et on va prier ensemble. Merveilleux, tu sais quoi? La Bible dit que si une personne se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Donc, je sais que maintenant, il y a vraiment une célébration merveilleuse au ciel. Bon, tout un bruit. Et ici sur la terre, nous sommes heureux aussi, n'est-ce pas? Donc Marlène, je vais juste t'inviter à répéter cette prière après moi. Et j'invite tout le monde à le prier avec nous, ok? Donc on va dire ceci. Père Céleste, je viens à toi. Et je te donne ma vie. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ et mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré et qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie et je te remercie que tu fais de moi une nouvelle création. Tous mes péchés sont lavés. Je suis pardonné. J'ai un nouveau départ aujourd'hui et pour le restant de ma vie, je vais te servir et je vais t'obéir par l'aide de ton esprit. Je suis ton enfant. Je suis sauvé. Je t'aime, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.